des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, chacun de nous a commencé sa vie sous la forme d'une cellule, l'œuf. Mais en y réfléchissant bien, comment cela se peut-il que de cette cellule unique, isolée, surgissent les constituants du corps de l'adulte, faits de milliards de cellules harmonieusement ordonnées pour former des organes aussi différents et complexes que le cerveau, les membres, les yeux ou encore le visage. Non seulement la cellule fondatrice et ses descendantes se multiplient un nombre de fois incalculable, mais les milliards de cellules qui en résultent doivent acquérir des spécialisations qui les rendent aptes à remplir les fonctions les plus variées. Et puis toutes ces cellules doivent être coordonnées entre elles, ce qui implique un système complexe de communication interne et d'échange d'informations avec le monde extérieur. Cette réflexion, je ne l'ai pas inventée. Elle vient de notre invité, qui figurait dans l'introduction de l'un de ses derniers livres, un livre parmi beaucoup d'autres, puisque notre invité a participé à plus de 300 publications. Ce livre s'intitule « Des chimères, des clones et des gènes ». Et notre invité, c'est Madame Nicole Ledouarin. Nicole Ledouarin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans notre studio à Canal Académie. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France, où vous occupiez la chaire d'embryologie cellulaire et moléculaire. C'était entre 88 et 2001. Vous êtes également secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences depuis 2006, en fait, hein, c'est tout récent. Première femme à occuper ce poste en 2001. Également membre de la National Academy aux États-Unis, de la Royal Society à Londres. Et donc, vous êtes embryologiste, Nicole Ledouarin. Alors, avant de retracer votre brillant parcours, quelques clés pour d'ores et déjà cerner votre spécialité. Alors, vos recherches ont offert une approche très fructueuse à un problème fondamental en biologie du développement embryonnaire, suivre le destin d'une cellule ou d'un tissu au milieu des autres. Et dès 1969, et nous y reviendrons en détail au cours de cette émission, dès 1969, vous allez utiliser deux organismes très proches, la caille et le poulet, et vous allez greffer des cellules d'embryon de caille dans les embryons de poulet, et vous allez créer les premières chimères viables. Alors, Nicole Ledouarin, avant de venir à 1969, bien sûr, vous avez entamé déjà un parcours hein, avant 1969. Quelles étaient vos motivations avant d'entrer dans la recherche, puisque vous avez commencé comme professeur de lycée, il me semble?
Oui, en effet, je suis la fille d'une institutrice et j'ai vécu mon enfance en Bretagne. Et j'ai été éduquée non seulement comme tout le monde, mais aussi du point de vue intellectuel, au début de ma vie, par ma mère, qui était institutrice dans un petit village où elle enseignait dans une école à classe unique. C'est-à-dire qu'elle apprenait à lire aux petits tout en préparant les plus grands au certificat d'études qu'on passait à l'époque, à l'âge où maintenant on passe le brevet élémentaire. Et c'est ainsi que j'ai eu comme éducateur, non seulement pour ma vie, mais aussi au point de vue intellectuel, pendant toute mon enfance, ma propre mère. Et je lui dois par conséquent beaucoup. C'est elle qui m'a donné le goût d'apprendre. Et étant donné que son enseignement était quelque chose qui se faisait sans qu'il y ait pour moi de transition entre le foyer et l'école, tout ça était quelque chose d'unique en quelque sorte. Je n'ai jamais considéré qu'il était difficile d'apprendre. C'est quelque chose qui m'a toujours paru comme aller de soi.
Parce que l'environnement faisait que vous étiez dans un terreau de connaissances ou parce que vous aviez des facilités à la base?
Ah ben, des facilités, peut-être un petit peu, mais en tout cas, j'étais dans des conditions particulièrement favorables. Et alors, je me suis tout de suite sentie un goût pour le professorat. Donc, je pensais faire ma carrière comme professeur de lycée et notamment d'ailleurs comme professeur de lettres. À la sortie du lycée, où j'avais fait beaucoup de latin, de grec et de français et d'histoire, etc., j'étais dans une section littéraire, je pensais devenir professeur de lettres. Et puis, la dernière année de lycée, j'ai eu la chance, à cette époque, d'avoir un... C'était à Lorient, la ville venait d'être libérée, et le lycée venait de rouvrir. Nous étions dans des baraquements provisoires à cette époque-là. Mais enfin, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de biologie, de sciences naturelles, et qui était très bon. Et ça m'a donné la révélation que j'avais un goût vraiment tout à fait particulier pour tout ce qui était biologie. De sorte que j'ai fait des études de biologie, de sciences naturelles, ici à Paris, à la Sorbonne. À l'époque, c'était à la Sorbonne que ces choses-là se passaient. Et puis, j'ai passé l'agrégation en 1954 de sciences naturelles. Je m'étais mariée entre-temps, j'avais déjà un enfant. Et je suis... Alors, je me suis consacrée à l'enseignement secondaire. Quand on avait l'agrégation à cette époque-là, on devait aller pendant 3 ans en province.
Donc là, en l'occurrence, la province était...
Alors, donc, je suis allée à Caen.
À Caen.
Pendant 3 années. C'est là que j'ai fait mes premières armes dans l'enseignement comme professeur de lycée. Et ma foi, ça m'a paru intéressant. J'ai cherché à revenir à Paris, ce qui a été possible au bout de 3 ans. Je suis venue dans un lycée qui était à l'époque un lycée dit pilote, parce que on y utilisait des méthodes pédagogiques qui étaient de pointe à l'époque, et avec très peu de contraintes qui étaient imposées aux élèves. On les laissait extrêmement libres. Et puis, on utilisait la méthode de la redécouverte, un petit peu comme celle qui est maintenant prônée par cette action protégée par l'académie qui est la
malapate.
Mais on en faisait déjà ça à l'époque. Donc c'était intéressant, mais j'avais quand même le sentiment que je ne pouvais pas, avec bonheur, n'avoir dans ma vie que ce type d'activité qui était celle de transmission des connaissances. Et j'ai essayé de revenir à l'université et d'essayer de préparer une thèse.
Tout en ayant déjà un enfant.
Oui, à ce moment-là, j'avais même 2 enfants à l'époque, parce que j'ai eu 2 filles. Et à ce moment-là, j'avais déjà 29 ans et j'avais un métier, donc je n'étais pas libre tout le temps. J'étais bien obligée de travailler pour gagner ma vie, naturellement. Et il s'est révélé extrêmement difficile pour moi de trouver un laboratoire. Parce que la recherche à cette époque-là, c'était dans les années 58-59. En France, elle commençait à redémarrer après une stagnation dramatique qui était due à la guerre.
À la guerre.
Et il y avait très peu de possibilités. Et d'autre part, je n'étais pas dans la norme, puisque j'étais déjà sortie de l'université, parce que j'avais déjà un métier, parce que je n'avais pas tout mon temps libre.
Oui, vous avez déjà construit une partie.
Par conséquent, j'ai trouvé des réticences, j'ai trouvé une fin de non-recevoir de la part de plusieurs laboratoires.
Et au départ, quand vous axiez vos recherches vers les laboratoires, c'était déjà dans des domaines bien spécifiques?
Je voulais faire ou de la biologie cellulaire ou de la biologie de développement. Et j'ai eu la chance de rencontrer, par l'intermédiaire d'une ancienne amie, le professeur Étienne Wolff, et qui lui-même avait eu un parcours aussi qui n'était pas absolument linéaire, puisqu'il avait commencé à être philosophe, et que c'est en faisant un diplôme d'études supérieures pour passer l'agrégation de philosophie qu'il est rentré dans un laboratoire de biologie et qu'il s'est rendu compte qu'il aimait la biologie et qu'il a changé de direction. Mais il se destinait lui-même aussi à l'enseignement secondaire. Et il en a fait un petit peu d'ailleurs après avoir eu l'agrégation de sciences naturelles, parce qu'il a recommencé des études de biologie après.
Donc il s'est retrouvé un peu dans votre parcours?
Oui, et alors il avait une compréhension particulière de ce type de situation, qui est une situation après tout qui n'est pas anormale. Il est bien normal qu'on laisse aux jeunes la possibilité de changer de voie, de réfléchir, d'expérimenter. C'est assez difficile en France, malheureusement.
Encore maintenant, vous le pensez?
Peut-être plus maintenant que jamais. Et ça, c'est regrettable. En tout cas, j'ai réussi quand même. Et j'ai été, donc, tout en étant professeur de lycée, j'ai été faire des recherches pendant le temps que j'avais de libre dans le laboratoire d'Étienne Wolff.
Alors, votre thèse s'intitulait « Le développement de l'appareil digestif, en particulier, donc l'appareil, le foie chez l'embryon du poulet ».
Oui, parce que Étienne Wolff travaillait sur un matériel qui était l'embryon de poulet. Il était un grand spécialiste de ce matériel. Et lorsque je suis allée le voir, il m'a donné comme sujet de travailler sur le développement des dérivés de l'endoderme. Vous savez, l'endoderme, c'est cette couche de tissu qui se trouve à l'intérieur de l'embryon et qui va donner le tube digestif et toutes ses annexes. En particulier, comme annexe, il y a le foie, il y a le pancréas. Il y a aussi, d'ailleurs, les poumons qui sont une annexe du tube digestif, puisque la trachée est un dérivé du tube digestif primitif. Alors, j'ai travaillé dans ce laboratoire pendant 2 années en étant toujours professeur du lycée, au lycée de Montgeron. Donc, j'ai acheté une deux chevaux, ce moment-là, pour faire le va-et-vient. Et j'avais quelqu'un à la maison qui s'occupait de mes enfants. Et cette personne qui s'occupait de mes enfants, malgré que mon mari ait été aussi professeur agrégé, nous étions incapables de payer ça. C'est ma famille qui m'a aidée financièrement à cette époque. De façon à ce que je puisse me libérer parce que la personne qui s'occupait des enfants, bien c'est ma famille qui l'a rétribuée.
Et cela pendant 2 ans, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas baissé les bras ou vous n'avez pas
Non, j'ai jamais baissé les bras. Au contraire, j'ai levé les bras parce que je me suis rendu compte tout de suite que la recherche, c'était quelque chose qui me plaisait énormément, que j'avais trouvé ma voie. Et ça, je ne savais pas au départ. Je voulais faire une expérience. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à Étienne Wolff. Je lui avais dit, écoutez, je vous demande rien. Je vous demande juste une paillasse et un sujet. Hein? Mais je ne vous demande pas d'argent puisque je gagne ma vie au lycée. Et je vais voir si ça me plaît. Et je vais voir si j'en suis capable, surtout. Et alors, je me suis rendu compte au bout d'un an que ça me plaisait. Et lui, il m'a dit, continuez. J'ai compris que probablement ça pouvait aboutir à quelque chose. Et en effet, plus j'ai travaillé dans la recherche, plus j'ai trouvé ça très excitant. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça excitant? Parce que d'abord, il y a dans cette activité une vraie liberté. Une vraie liberté de choix de ce qu'on va faire.
Mais est-ce que justement, on n'est pas perdu quand il y a un trop-plein de liberté?
Pour moi, non. Parce qu'en même temps qu'il y a une liberté, il y a des contraintes formidables qui sont les problèmes qu'on étudie. Et le grand problème, la grande difficulté, c'est de trouver le bon problème. Et puis, c'est de savoir le mener à bien. En d'autres termes, il faut avoir de l'initiative, il faut avoir le goût d'étudier ce que les autres ont fait avant vous, il faut savoir utiliser ce que les autres ont fait pour voir ce qui n'est pas bien compris, ce qui manque, et ce qu'il faut par conséquent étudier au point où en sont les choses. Alors, j'ai été très heureuse de faire ce métier. Ça a totalement changé ma vie et surtout, ça l'a totalement rempli du point de vue professionnel d'une façon absolument extraordinaire, à tel point que maintenant que j'ai 76 ans, je continue à être aussi enthousiaste et je continue à avoir autour de moi des gens avec qui s'intéressent au travail que nous faisons ensemble et je ne peux pas envisager d'arrêter. C'est pourquoi je voudrais ici faire une petite remarque qui est que il est tout à fait mauvais d'obliger les gens à prendre leur retraite à un âge donné au moins dans certaines professions qui sont des professions de création, qui sont des professions qui sont très liées à la personnalité des gens, à leur capacité de travail. Il faut les laisser choisir. Évidemment, on peut peut-être pas généraliser ça à tous les métiers, mais en tout cas dans le domaine de la recherche. Il faut faire en France ce qui est fait en Amérique, c'est-à-dire que ceux qui sont capables de démontrer que ils ont encore des potentiels et qu'ils ont le désir de se consacrer et de travailler, de donner d'eux-mêmes pour l'augmentation du savoir, puisque la recherche, c'est ça, c'est l'augmentation du savoir. Il faut les laisser faire et il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues en permanence, comme c'est ce qui se passe ici.
Alors, c'est sur ces derniers mots que nous allons marquer une courte pause, Nicole Ledouarin. Et puis, dans la seconde partie de notre émission, je vous propose d'aborder plus en détail vos recherches qui vous ont donc valu une renommée internationale. À tout de suite. Suite de notre émission Parcours en compagnie de Nicole Ledouarin, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences. Je ne citerai pas toutes les autres nombreuses fonctions et titres que vous avez, Madame Nicole Ledouarin. Je renvoie pour cela nos auditeurs à votre très grande fiche biographique que l'on trouve sur le site internet de l'Académie des sciences. Dans cette seconde partie, Nicole Ledouarin, nous allons pouvoir parler de votre carrière à proprement parler, qui vous a donc valu une renommée internationale. Et pour cela, vous nous proposiez, pendant la pause, de redémarrer sur votre thèse, et dont le directeur de thèse était M. Étienne Wolff.
Oui, alors donc j'ai entrepris de faire une thèse dans des conditions qui se sont améliorées au bout d'un certain temps, puisque j'ai obtenu un détachement au CNRS, c'est-à-dire que le salaire que j'avais dans l'enseignement secondaire a été en quelque sorte transféré au CNRS. Et ceci parce qu'il est possible, dans certaines conditions, de faire des échanges de postes entre ces deux organismes. Et j'ai donc été chercheuse à plein temps à partir de 2 ans après que j'ai commencé. Et alors, à ce moment-là, j'ai très rapidement terminé ma thèse, donc sur le développement de tubes digestifs et du foie, que je l'ai passée en 1964. Et là, j'ai été nommée professeure à l'Université de Clermont-Ferrand. Alors, c'est ce qu'on appelle à l'heure actuelle professeur de deuxième classe. À cette époque, ça s'appelait maître de conférence. Aux États-Unis, ça correspond à assistant de professeur. Donc, je suis restée à Clermont-Ferrand pendant une année. Et puis, j'ai été nommée l'année suivante à l'Université de Nantes. Et là, à l'Université de Nantes, il s'agissait d'une université qui commençait juste à se développer. Et j'ai pu établir mon propre groupe de recherche, c'est-à-dire mon propre laboratoire. J'ai eu d'ailleurs à faire un enseignement très dense, et en particulier, j'ai monté un certificat d'embryologie. J'ai aussi participé au certificat de physiologie, et puis au premier cycle. C'est-à-dire que j'avais à la fois beaucoup d'enseignements à faire, mais enfin, il me restait tout de même du temps, et j'ai pu monter un laboratoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une observation qui a changé complètement le cours de mes travaux, parce que je me suis rendu compte que une autre espèce d'oiseau, la caille japonaise, dont j'ai eu quelques exemplaires, j'ai eu des œufs, comme beaucoup d'autres laboratoires d'embryologie d'ailleurs, parce que il y avait au CNRS, à Gif-sur-Yvette, un généticien qui étudiait la vigueur hybride, c'était un généticien, il étudiait la vigueur hybride sur des cailles. Donc il avait un élevage de cailles immense. Et les cailles sont des petites bêtes qui pondent un œuf tous les jours. Donc il avait beaucoup, beaucoup de cailles et il était très ennuyé d'être obligé de les jeter. Et il voulait convaincre les laboratoires d'embryologie, tels que celui d'Étienne Wolff, d'utiliser les œufs de cailles au lieu des œufs de poulet. Il les confiait gratuitement, il les donnait gratuitement à ces laboratoires.
Donc c'était là. Alors, votre approvisionnement.
Plusieurs personnes ont regardé les cellules de caille, ils n'ont rien vu de spécial. Mais il se trouve que moi, quand j'ai regardé les cellules de caille, je me suis aperçue qu'elles avaient un noyau très particulier. Pourquoi est-ce que j'ai été attirée sur la morphologie du noyau? C'est parce que mes recherches précédentes sur le foie m'avaient fait remarquer que la différenciation des cellules hépatiques s'accompagnait d'une modification du volume du nucléole. Alors, donc je me suis aperçue de ça, et puis j'ai vu que le nucléole de la caille était très particulier parce qu'il était constitué par ce qu'on appelle l'hétérochromatine, c'est-à-dire par de l'ADN condensé. C'est une structure un peu particulière. L'ADN condensé, l'hétérochromatine, ça existe dans tous les types de noyaux, mais d'une manière générale, c'est représenté sous forme de masses dispersées dans le noyau. Tandis que là, dans cette espèce, toutes ces masses dispersées sont toutes réunies et elles sont associées avec le nucléole. Donc, j'ai remarqué cette caractéristique cellulaire très particulière. J'ai vu que ça existait dans toutes les cellules de caille, Et je me suis dit que la caille et le poulet étant des animaux extrêmement proches sur le plan taxonomique, hein, c'est de la même famille, les gallinacées, je me suis dit que j'avais envie d'associer des cellules de poulet avec des cellules de caille en faisant des greffes de tissus bien déterminés de la caille dans le poulet, en substituant en quelque sorte des tissus de caille aux tissus de poulet, ou l'inverse, de façon à suivre le devenir de ces cellules que j'injectais. Pourquoi ? Parce qu'elles gardaient cette propriété qui étaient génétiques pendant la durée de leur vie.
Donc en fait, une
c'était
fois
permanent.
À la naissance, on retrouvait des parties de caille, des parties
non seulement
du poulet.
On les retrouvait à la naissance, mais on les retrouvait pendant toute la durée de la vie embryonnaire. Et par conséquent, si vous aviez mis une petite masse de cellules de caille dans un endroit particulier, comme par exemple dans un endroit du tube neural, le futur système nerveux, ben vous pouviez voir exactement où elles allaient et ce qu'elles devenaient. Et
puis,
on peut les pister. Et j'avais pris des tas de précautions pour être absolument sûre que dans ces conditions de greffe, le comportement des cellules était le même que celui qu'elles avaient in vivo, normalement, dans l'embryon. Par conséquent, tout ce que je voyais en regardant les cellules de caille se disperser dans le poulet, je pouvais être sûre que c'était ce que les cellules de poulet qui étaient placées au même endroit auraient fait.
Donc,
comprenez ? Donc, je pouvais analyser les mouvements cellulaires d'une manière absolument privilégiée, telle que ça n'avait jamais pu être fait auparavant, parce que les cellules qui bougent, elles sont exactement la même morphologie que celles qui ne bougent pas. Et quand vous regardez des cellules après les avoir fixées, vous regardez des cellules qui sont immobiles, et par conséquent, vous ne pouvez pas reconnaître celles qui bougeaient, et vous ne pouvez pas savoir d'où elles venaient, elles sont là, mais vous ne pouvez pas savoir si elles venaient d'ailleurs, vous ne pouvez pas savoir où elles vont aller. Donc, c'était tout à fait amusant, passionnant et intéressant.
Parce et c'est ce qui vous a valu une renommée internationale pour le
coup. Je pense que oui, ça a été important parce que finalement, ça a apporté, si vous voulez, une dimension nouvelle dans la manière d'étudier le développement embryonnaire.
Donc ça, c'était en 1900.
Une dimension que beaucoup de gens auraient bien voulu pouvoir faire, mais le tout, c'était de trouver un moyen. Alors, je dois vous dire que maintenant, avec la génétique, on peut faire aussi ça sur des embryons qui sont pas du tout accessibles à la microchirurgie. Ce qui est formidable avec l'embryon de poulet, c'est que vous ouvrez l'œuf, vous voyez l'embryon qui est là, et vous pouvez lui faire toutes sortes de chirurgies, toutes sortes de greffes, toutes sortes d'ablations, toutes sortes de traitements, et vous fermez l'œuf, vous le mettez dans une couveuse, il continue à se développer. Donc, vous avez l'embryon accessible à tous les stades du développement.
Et alors, justement, comme vous l'expliquez si bien, est-ce que cela, ça ne vous a pas valu des controverses, des oppositions?
Non, parce que c'était assez clair.
La
il y a des personnes qui ont dit « Ah oui, mais quand on fait des greffes comme ça, on doit perturber le développement. » Et là, j'ai bien démontré que le développement n'était pas perturbé. Alors, donc non, j'ai pas eu d'opposition. Au contraire, les gens ont utilisé le marqueur. Et c'est devenu une technique classique pour beaucoup de laboratoires. Alors, je voulais dire une chose, c'est que on pouvait pas faire ça sur les embryons de mammifères. Hein, et nous sommes des mammifères. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment nous développons, comment nous fonctionnons, bien entendu. Alors, ce qui est vrai pour l'embryon de poulet est aussi vrai pour l'embryon de mammifère, mais enfin, il y a quand même quelques petites différences. C'est passionnant d'étudier les choses sur les mammifères. Alors maintenant, on peut le faire. Il y a des méthodes génétiques qui permettent, en faisant des animaux génétiquement transformés chez la souris, il y a des méthodes génétiques qui permettent de marquer d'une manière sélective certains types de cellules et par conséquent de les suivre comme moi-même je pouvais suivre et comme les gens qui utilisaient ma méthode pouvaient suivre les cellules au cours du développement. C'est beaucoup plus compliqué à faire, à mettre en œuvre. Mais c'est intéressant et ça peut être très très raffiné aussi.
Donc là nous sommes en 1969, alors jusqu'à 2006 il se passe encore quand même pas mal de temps. Donc vous allez continuer dans ce sens-là, vos recherches.
Alors j'ai trouvé donc ce marqueur quand j'étais professeur à l'université de Nantes. J'y suis restée 8 ans. Et ensuite, Monsieur Wolf a atteint l'âge de la retraite et on m'a demandé de le remplacer comme directeur de l'institut qu'il avait créé à Nogent-sur-Marne, qui était une annexe du Collège de France. Je suis donc devenue directeur de cet institut. Et là, j'ai emmené avec moi une dizaine de personnes, même pas 6 personnes, je crois, qui travaillaient avec moi à Nantes. Et qui était donc titulaire d'un poste au CNRS, ou bien j'ai emmené des gens qui n'avaient pas encore leur thèse, Et nous sommes arrivés là. Alors là, c'était quelque chose, un certain challenge, parce que une femme qui dirige un grand institut comme ça, et c'était pas facile. Et c'était d'autant plus délicat que j'y avais fait moi-même mes études et mes premières armes. Par conséquent, j'allais devenir le directeur de gens que j'avais connus auparavant en tant qu'égaux.
Oui.
Ou égal. Je dois dire que les choses se sont bien passées.
Les choses se sont bien passées.
Et parce que le CNRS avait pris un certain nombre de précautions, et le directeur avait consulté le personnel qui était là en demandant ce qu'il pensait de cette nomination éventuelle de moi-même comme directeur. Et les choses avaient été acceptées d'une façon sans problème. Donc ça s'est bien passé. Et puis, il a fallu bien sûr rediriger un certain nombre de personnes qui étaient sur des voies de recherche qui n'étaient plus extrêmement productives et les remettre dans un système un petit peu plus novateur. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée à Nogent pendant 25 années comme directeur et je crois que j'ai maintenu le niveau du laboratoire, qui était déjà bien connu sur le plan international, j'ai peut-être même augmenté un peu sa réputation internationale. Malheureusement, ce laboratoire, par la décision d'un des derniers administrateurs du Collège de France, a été fermé pour des raisons tout à fait obscures. Et maintenant, ce centre qui a connu un grand renom au point de vue de la biologie du développement en France, eh bien, il n'existe plus.
Donc, dans ces années 70, nous sommes dans une période où la recherche dans le domaine génétique et de l'embryologie est vraiment en expansion. Pour le coup, oui. Vous aviez vraiment un coup de projecteur sur vos
domaines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu, pendant le XXe siècle, une extraordinaire période de progrès pour la biologie qui a été due à la découverte de la structure de l'ADN. Il y a eu le développement de la biologie moléculaire et ça a ouvert des possibilités extraordinaires. Et il y a eu aussi, à partir des années 75, et puis un peu plus tard, le développement d'un nouveau type d'étude du développement de l'embryon qui a été la génétique du développement, avec les travaux qui ont été faits sur la drosophile en particulier. Et ces travaux sur la génétique du développement ont énormément enrichi notre domaine. Et bien entendu, nous avons dans mon laboratoire utilisé tous les nouveaux concepts et puis aussi les nouvelles possibilités offertes par l'utilisation des sondes nucléiques, par exemple, c'est-à-dire le sonde génétique, pour étudier où les gènes étaient exprimés, quels gènes étaient exprimés, comment ces gènes intervenaient sur le développement de tel ou tel organe. Et par conséquent, ça a donné un immense un intérêt complètement renouvelé aux études de biologie du développement.
Alors là, nous sommes bien sûr dans le domaine de la recherche fondamentale. Les personnes qui nous écoutent peuvent se demander si il y a eu des applications de cette recherche.
Les applications, elles existent nécessairement, mais pas d'une manière absolument directe. Mais par exemple, j'ai fait des travaux sur le développement du système immunitaire et sur l'établissement de la tolérance vis-à-vis du soi, qui ont été sans aucun doute utiles pour la découverte d'un nouveau type de cellules T, qu'on appelle les cellules T régulatrices, qui sont tout à fait importantes pour le fonctionnement du système immunitaire.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Nicole Edouarin. On se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission, où là, nous allons peut-être aborder le domaine de l'éthique, et puis peut-être aussi avant quand même vos fonctions en tant que professeur au Collège de France, où vous avez occupé votre chaire d'embryologie. À tout de suite.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Suite de notre émission Parcours en compagnie de Nicole Ledouarin qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio aujourd'hui à Canal Académie. Dans cette troisième partie, avec vous Nicole Doirin, nous allons quand même parler de votre chaire d'embryologie cellulaire et moléculaire que vous avez occupée jusqu'en 2000 ou 2001, il me semble, au Collège de France. Et puis nous allons quand même aborder le regard que vous portez sur l'enseignement aujourd'hui dans le domaine de la recherche, notamment l'embryologie, et puis également le regard que vous portez sur le travail qui est actuellement fait sur les cellules souches. Mais auparavant, venons-en, donc en 1988, vous entrez au Collège de France.
Oui, écoutez, dans les années 80, j'ai eu beaucoup de satisfaction. J'ai eu, en 1986, le Grand Prix Inamori de Kyoto, un prix qui couronnait une innovation technologique.
Oui.
Et puis j'ai eu la médaille d'or du CNRS
en 1986.
Alors ça a été, je dois vous dire, ça a été quelque chose de particulièrement important pour moi. Parce que c'est grâce au CNRS que j'ai pu changer de métier. C'est-à-dire passer de l'enseignement secondaire à la recherche. C'est grâce au CNRS qui était vraiment, et à l'époque, et qui, j'espère, va le rester, plus ouvert, d'un accès moins bureaucratique que toutes les autres fonctions académiques. Et alors, la troisième grande satisfaction que j'ai eue, ça a été ma nomination au Collège de France. Et ça a été en effet un grand couronnement parce que c'est un bastion, quand même, masculin. Il n'y avait, quand j'étais là, qu'une autre femme, Madame Héritier, une grande ethnologue. Et auparavant, il y avait eu Madame de Romilly. Pour 50 professeurs, c'est pas beaucoup. Alors nous étions toutes les deux, Madame Héritier et moi-même, Madame de Romilly avait déjà pris sa retraite. Ceci dit, mes années comme professeur au Collège de France jusqu'à 1er janvier 2006 ont été très heureuses. J'ai énormément aimé le type d'enseignement qu'on y fait parce que c'est un enseignement libre. C'est le professeur qui décide de ce dont il va parler. Les auditeurs viennent si ça les intéresse.
Ce qui est le cas, les personnes qui viennent pour
donc,
le coup.
Donc, s'il n'y a personne, c'est que vous faites un cours qui est inintéressant. Mais alors, heureusement pour moi, ça n'était pas le cas. J'ai eu beaucoup de monde à mes cours, et notamment beaucoup de jeunes, des étudiants de troisième cycle, des étudiants et puis d'autres personnes qui s'intéressent à la biologie.
Est-ce que ça change beaucoup d'enseigner au Collège de France, comme vous l'aviez fait auparavant, mais dans les lycées ou à l'université ? Est-ce que le rapport
est... Oui, c'est très différent.
Très différent,
oui. Oui, c'est complètement différent. En somme, au Collège de France, la première démarche, c'est que vous-même, vous fassiez un point complet, profond, approfondi sur une question. Une question qui vous intéresse, puis c'est vous qui la choisissez. Donc, c'est une démarche qui, au départ, est extrêmement personnelle. Ensuite, vous ne pouvez pas énormément penser à votre auditoire, puisque celui-ci est tout à fait hétérogène. Par conséquent, votre auditoire, il vient s'il trouve que vous lui parlez, que vous vous adressez vraiment à lui. Donc, c'est la teneur même de votre cours qui conditionne votre auditoire. C'est pas du tout la même chose quand on est chargé d'enseigner aux enfants des rudiments de quelque chose, comme par exemple dans un lycée, ou bien comme quand on est supposé préparer des étudiants d'université à un diplôme. Vous êtes en charge d'une certaine mission. Ce n'est pas la même chose au Collège de France. Vous êtes aussi en charge d'une mission au Collège de France, mais elle est beaucoup plus large. Donc, c'est vraiment passionnant. Ça, c'est une des choses parmi les plus intéressantes que j'ai faites dans ma vie, ça.
Et parallèlement, vous
alors, évidemment, ça ne m'empêchait pas de faire ma recherche, parce que c'était en lien direct avec la recherche, bien sûr. Mm-hmm. Et au contraire, c'est un très grand enrichissement. C'est lourd, c'est beaucoup de travail, c'est lourd. Mais c'est un très grand enrichissement. J'ai beaucoup aimé.
Et puis également, mais ça c'était quand même avant, vous entrez aussi à l'Académie des sciences.
Oui, alors c'est vrai, en 1982 j'ai été élue correspondant, en 1984 j'ai été élue membre.
2 ans plus tard, membre.
Oui, c'était un grand événement aussi, j'étais très contente de ça et j'ai toujours bien aimé l'atmosphère de l'Académie des sciences. Alors, il se trouve que on m'avait demandé en 87 ou 88 si j'étais intéressée par la fonction de secrétaire perpétuel.
Parce qu'il déjà en 1988.
Oui, c'était le professeur Hambourger qui m'avait demandé ça, parce qu'il était président à l'époque. Alors à l'époque, justement, ça coïncidait avec ma nomination
au Collège de France.
Et puis la fonction de secrétaire perpétuelle, ici, c'est une fonction presque à plein temps. Pas tout à fait peut-être, à condition d'être très, 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 très efficace et de ne pas perdre de temps, mais c'est quand même une fonction lourde. Alors, bien que j'avais été fort impressionnée qu'on demande ça à une femme, parce que franchement, comme bastion masculin, c'est pas mal non plus, l'Académie des sciences, il faut se rendre compte qu'à l'époque, on était
deux. Et vous pensez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'ouverture
La preuve, ça, c'en était une. Mais enfin, c'était une porte entrouverte. Et alors, il faut vous dire qu'à l'époque, il y avait environ 125 membres à l'Académie des sciences, ou 100, enfin, je ne sais plus combien, mais plus de 100. Et il y avait Madame Choquet-Bruat, qui avait été élue. Plusieurs années après, nous avons été deux femmes à être élues en même temps. Madame Grunberg-Mindago, qui n'avait pas pu franchir l'obstacle en 1980, je crois, et qui, 4 ans plus tard par conséquent, est passée en même temps que moi. Donc ces messieurs ont élu deux femmes en même temps. Malheureusement, ils n'ont pas maintenu le rythme.
Ah, parce que
nous sommes restés très marginales pendant de nombreuses années. Alors, récemment, là, donc je suis devenue quand même secrétaire perpétuelle lorsque j'ai pris ma retraite.
L'année où vous quittez le Collège de France.
Il se trouvait que mon prédécesseur avait terminé son mandat et puis que de nombreux amis m'ont demandé si j'étais maintenant prête. Alors, j'ai dit oui. Et ça a été une belle expérience, une grande expérience qui a duré 5 années puisque j'avais atteint la limite d'âge de 75 ans que nous nous sommes fixés à l'Académie des sciences pour cesser cette activité. Et ça a été vraiment très enrichissant. Ça,
alors vous confirmez, c'est un métier à temps plein, c'est un métier pour le coup.
Ben, écoutez, j'ai continué à faire de la recherche pendant ces 5 ans, j'ai gardé une activité dans mon laboratoire, mais ça occupe sérieusement pendant beaucoup de temps. Oui.
Alors justement, vous parlez de vos travaux puisque vous êtes toujours en activité, il faut quand même le signaler.
Oui, j'ai fini, malgré la fermeture du laboratoire de Nogent, le CNRS m'a donné, et en particulier le directeur du laboratoire, de l'Institut Alfred Fessard, où je suis maintenant, M. Philippe Vernier, m'a hébergé là avec un groupe de chercheurs que j'avais déjà à Nogent. Puis je dois dire que j'ai aussi plusieurs chercheurs étrangers. Et j'ai une jeune fille qui fait un postdoc qui est d'origine portugaise, et puis j'ai deux jeunes hommes brésiliens. Alors, parce qu'il faut vous dire que pendant beaucoup d'années, maintenant ça fait 8 ans, je crois, j'ai une chaire UNESCO à l'Université de Rio de Janeiro. C'est un professeur de l'Université de Rio de Janeiro qui avait fait sa thèse avec M. François Gros, ici à Paris, qui un jour est venu me voir à la sortie d'un cours au Collège de France en me disant, écoutez, lui-même est professeur à l'Université de Rio, il est professeur à la faculté de médecine, de biologie cellulaire, et d'anatomie, et il m'a dit, il y a très peu de biologie du développement, pour ainsi dire pas, laboratoire de biologie du développement au Brésil, et je voudrais essayer d'implanter cette discipline, est-ce que vous voulez m'aider? Alors j'ai répondu oui, et nous avons créé une chaire UNESCO dont je suis titulaire et qui m'a permis pendant des années, des premières années, de faire des ateliers, si vous voulez, ce qu'on appelle des workshops à Rio, en invitant des chercheurs de France et puis aussi d'Amérique qui travaillent dans la biologie du développement sur différents modèles, comme sur la souris par exemple. J'avais invité M. Babinet de l'Institut Pasteur, comme sur la drosophile, comme sur les amphibiens, comme sur les poissons zèbres. J'avais invité une Américaine là. Et alors on faisait des cours pratiques suivi par des cours théoriques ou l'inverse, enfin des cours pratiques et théoriques, à tout un tas de jeunes gens brésiliens.
Donc vous êtes vraiment dans la transmission des savoirs.
Oui, ça, vous savez, ça vient de mes origines, fille d'institutrice laïque. Et alors, donc ça a été très intéressant parce que maintenant il y a plusieurs laboratoires. Les jeunes gens qui avaient suivi ces cours, après, ils partaient faire une thèse à l'étranger. Alors il y en a qui viennent en France, il y en a qui sont allés en Amérique, il y en a qui sont allés en Angleterre. Et ça a été une formule qui a permis d'enrichir beaucoup ce vivier de jeunes gens brésilien qui retourne avec des notions vraiment de biologie du développement moderne et puis qui ont le goût d'installer leur propre laboratoire là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai encore des chercheurs qui viennent de là.
Alors, pour terminer cette émission, je vous propose, en toute dernière partie, de parler un peu plus de votre regard d'embryologiste sur les travaux actuels concernant notamment les cellules souches.
Ah oui, c'est intéressant parce que je suis en train de terminer un livre sur ça, un livre qui va sortir au mois de septembre.
Alors j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler d'ailleurs.
Oui, les éditions Odile Jacob. Alors ce livre est consacré en effet aux cellules souches, à leur signification biologique. Je montre qu'elles existent dans tous les êtres vivants et en particulier qu'elles permettent une reproduction dite asexuée chez certains animaux qui sont capables de régénérer. S'ils se régénèrent, comme les hydres d'eau douce, comme les planaires, etc., s'ils sont capables de régénérer, c'est parce qu'ils ont des cellules souches en réserve. Et alors que finalement, ce système d'avoir des cellules souches en réserve, ça existe chez tous les animaux multicellulaires qu'on appelle les métazoaires. Dont nous sommes. Alors, nous avons une durée de vie longue. Nous avons des cellules, comme vous l'expliquiez tout à fait au début, qui sont spécialisées pour accomplir telle ou telle fonction. Mais ces cellules, une fois qu'elles sont spécialisées, elles ont une durée de vie limitée. Pourquoi ? Parce que quand elles sont spécialisées, elles se divisent peu ou elles ne se divisent plus. Alors, elles vivent un certain temps, puis après, elles s'éteignent. Mais il faut les remplacer, parce que nous vivons très longtemps. Il n'y a que nos neurones qui vivent presque aussi longtemps que nous. Tous.
Alors donc,
nous avons dans tout notre organisme des cellules souches capables de régénérer nos tissus. Ça, ce sont les cellules souches de l'adulte. Et ces cellules souches de l'adulte, on les connaît de mieux en mieux. Et c'est un champ de recherche absolument fascinant qui s'est ouvert récemment. Et pourquoi il s'est ouvert récemment ? Il s'est ouvert à partir des années 80, où on a découvert que on pouvait, à partir de l'embryon de souris très précoce, à un stade où l'embryon n'est constitué que par une petite masse de cellules toutes identiques, chacune d'entre elles ayant la capacité de donner dans sa descendance tous les types cellulaires qu'on trouve dans l'organisme. Par conséquent, ce sont des cellules totipotentes, capables de donner tout, comme la cellule œuf est totipotente. C'est un stade qui dure très très peu de temps. Mais deux chercheurs en 1981 ont démontré que ce stade de totipotence et en même temps est un stade où les cellules se multiplient, peut être perpétué en culture in vitro. Alors que dans l'embryon, il est très éphémère, on peut le stabiliser en culture in vitro. Et si on peut le stabiliser en culture in vitro, on a des cultures, des lignées de cultures transplantables presque éternellement, qui sont des lignées de cellules souches, à partir desquelles, si on change les conditions de culture, on peut obtenir tous les types cellulaires que l'on veut. D'où l'idée que ce sont des cellules fantastiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des réserves qui peuvent permettre d'obtenir à volonté les cellules que l'on veut et que l'on devrait pouvoir transplanter chez un organisme adulte, chez lequel certaines cellules différenciées, certaines cellules fonctionnelles deviennent déficientes ou meurent. D'où cet extraordinaire champ de recherche qui s'est ouvert à partir des années 80. Alors, c'est surtout à partir des années 98, l'année 98, parce que la capacité d'avoir des cellules souches de ce type que je viens de vous décrire était restreinte, cette capacité, à l'espèce souris. On n'avait pas réussi à faire marcher ce système de culture dans d'autres espèces. Mais petit à petit, on a fait des progrès. Et en 1998, il y a un Américain qui travaillait d'ailleurs dans une firme privée, avec des crédits privés, dans l'université de Wisconsin, qui a montré qu'on pouvait faire ça avec des cellules provenant d'embryons humains.
Et c'est là qu'en fait, l'éthique est intervenue.
Là, c'est tout à fait extraordinaire, parce que si on peut faire ça chez l'homme, alors voilà, on a une réserve. Neuve pour réparer, comme un peu dans une automobile, vous savez, quand la pièce critique pour faire marcher la voiture est cassée, on la remplace par une pièce neuve. Vous comprenez ?
Et là, en l'occurrence, là, ce que là, nous sommes dans l'explication, vous êtes plutôt partisan de ce traitement par le biais de cellules souches pour traiter des personnes atteintes d'Alzheimer, maladie de Parkinson ou
cancer. Comment peut-on ne pas être partisan de
ça ? Puisque les chercheurs sont mitigés, il y a certains qui se refusent.
Non, il y a certains qui pensent que c'est ennuyeux, qu'on ne doit pas tolérer qu'on sacrifie un embryon humain pour fabriquer des cellules souches. Parce qu'on détruit une vie potentielle. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que si on a des cellules souches capables de réparer le cerveau d'une personne atteinte par la maladie d'Alzheimer, on les utilise. D'où l'idée d'essayer d'utiliser des cellules souches provenant des tissus adultes. C'est pour ça que s'est développé énormément ces recherches sur les tissus adultes. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation d'embryons, il faut quand même reconnaître que maintenant qu'on pratique la procréation médicalement assistée, on fabrique, on produit, dirons-nous, des embryons qui ne sont pas tous utilisés dans un but reproductif. Il y a un certain nombre de couples qui ont dans un congélateur, quelque part dans une clinique ou dans un hôpital, des embryons qui sont le résultat de fécondation de leurs gamètes et pour lesquels ils n'ont plus de projet parental, c'est-à-dire que ou bien ils ont réussi à avoir des enfants, le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient, ou bien ils considèrent qu'ils ne veulent plus entrer dans ce programme. Par conséquent, il reste des embryons qui, selon la loi de bioéthique française de 1994, sont congelés, mais ne doivent pas rester congelés plus de 5 ans. Ces embryons sont donc voués à la destruction. Le problème qui se pose donc n'est pas de sauver la vie d'un embryon en ne l'utilisant pas pour faire des cellules souches, mais c'est de savoir si on préfère que l'embryon soit détruit ou qu'il soit donné à la science, ne serait-ce que pour faire des études qui permettront de mieux connaître le développement de l'embryon humain et éventuellement d'utiliser des cellules de ces embryons humains pour traiter des gens malades. Voilà où est le véritable problème.
Eh bien, c'est sur ces quelques mots que nous allons nous quitter. Grâce à vous, nous avons, à travers ce parcours, fait aussi un éclairage sur cette question des cellules souches. J'aurais voulu juste terminer en vous posant une dernière question. Quel est l'avenir de l'embryologie pour vous, Nicole Audouin ?
Écoutez, l'embryologie, l'étude du développement de l'embryon, c'est une science qui est très centrale en biologie. Parce que, comme vous l'avez dit tout à fait au début, cette espèce de chose absolument extraordinaire qui est la transformation d'une seule cellule de quelques microns de diamètre en un être humain ou bien en un éléphant si on veut ou en une baleine si on veut penser au gigantisme et transformation de quelque chose d'infiniment petit en quelque chose d'énorme. Cette chose infiniment petite contient toute l'information nécessaire pour fabriquer l'être ensuite. C'est quelque chose de très central en biologie et mieux, c'est loin d'être complètement compris, bien entendu. Mieux on comprendra comment ce phénomène extraordinaire se développe, se déroule, mieux on comprendra le fonctionnement des êtres vivants et par conséquent, mieux on pourra intervenir lorsque ce fonctionnement se dérègle.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous nous quittons cette fois-ci. Merci Nicole Ledouarin d'être venue nous rendre visite. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, donc c'est avec d'autant plus plaisir que nous vous avons reçu. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, que vous étiez la première femme à occuper ce poste, comme vous nous l'avez expliqué au cours de cette émission, que vous êtes également professeur honoraire au Collège de France, où vous occupiez la chaire d'embryologie cellulaire et moléculaire, et que donc, vous avez réalisé une grande carrière que vous continuez encore d'embryologiste. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois peut-être pour parler de votre livre à venir. Merci beaucoup.
Merci.